Nous voici en cette 12e rencontre du catéchisme pour adultes. La semaine dernière, nous avons mis en perspective, comme le commencement de l'histoire du salut, nous avions vu qu'il y a au commencement la théologie de la création, nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, nous avons contemplé la création d'Adam et Ève, avant le péché, c'est-à-dire tels qu'ils sont créés et voulus par Dieu, en méditant notamment ces dons préternaturels que Dieu avait donnés comme conséquence de sa grâce, comme faveur de ses fiançailles que Dieu avait comme contractées avec le genre humain. Dieu, on a vu, créé par amour, il a créé l'univers pour l'homme, même si l'homme n'est pas seulement fait pour vivre ici-bas, Dieu a un second dessein pour l'homme, c'est de l'adopter, de faire de lui ses fils. Nous avions vu donc qu'il y a une théologie avant le péché, le genre humain tel qu'il sort de Dieu, puis, conséquence du péché des origines, l'homme qui perd la grâce. Et puis, nous avions vu également que le Christ, par son incarnation, va venir accomplir la rédemption. C'était les états de la nature humaine. On avait vu ces trois états historiques. Donc là, on a quand même un point de vue. Le commencement, Dieu qui est créateur, l'état de justice originelle, après le péché originel, l'état de la nature humaine après le péché, et enfin, après l'œuvre accomplie par notre Seigneur, l'état de la nature humaine restaurée. Et ce à quoi il faut rajouter, c'est que, eh bien, il y a la fin des temps et cette vie éternelle en paradis. Le mot paradis veut dire jardin. C'est pourquoi vous entendez parfois parler du paradis terrestre, qui est du coup en comparaison avec le paradis céleste. Paradis désignant donc ce jardin dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève. Nous avons contemplé cette création de l'homme et je voudrais que l'on s'arrête un petit peu au début de cette catéchèse sur ce septième jour qui est le jour du repos de Dieu. Dans le premier récit de création, on nous dit ceci: le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Et immédiatement après, voilà que nous retournons au paradis terrestre avec le second récit de création. C'est là où nous avons Adam, Ève qui est sorti de la côte. Alors ce septième jour, le jour du repos, lorsque les docteurs de l'Église s'attellent à examiner ce septième jour, ils disent attention, Dieu ne se repose pas au sens où il aurait été physiquement fatigué. C'est une image, ce repos de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a fini sa création. Donc déjà, il n'y a rien d'autre pour lui à faire. C'est ce jour où il contemple toute l'œuvre qu'il avait faite et il bénit ce jour qui est un jour qui lui est consacré. Le jour, si vous voulez, de l'action de grâce. Dieu n'est pas physiquement, parce que Dieu est un pur esprit, c'est le Verbe de Dieu qui est le Créateur. Mais du coup, ce jour, il nous annonce déjà la fin surnaturelle pour laquelle l'homme et la femme ont été créés. Pas seulement pour vivre ici-bas, mais pour vivre dans cette contemplation du bon Dieu. Voilà un peu déjà ce septième jour. Ce septième jour qui nous dit mystérieusement que nous sommes appelés à être avec Dieu. Alors Dieu bénit ce jour. Et nous savons que pour nous, le septième jour, c'est chaque dimanche, c'est vraiment le jour où nous sanctifions ce jour, c'est-à-dire où nous nous plaçons eh bien, sous la seigneurie de Dieu, où nous reconnaissons que tout ce que nous avons vécu durant cette semaine et cette semaine qui s'annonce, eh bien, nous la recevons de Dieu. C'est également ce septième jour, le jour où le Christ sera ressuscité d'entre les morts. Donc déjà, mystérieusement, ce jour du repos nous fait poindre du doigt la finalité surnaturelle, être avec Dieu. Quand les pères nous disent « Dieu ne se repose pas physiquement », ça ne veut pas dire non plus que Dieu a achevé la création. Pourquoi ? Parce que Dieu maintient la création dans l'existence. Ce n'est pas non plus le repos de dire « Maintenant j'ai tout créé, tout va aller tout seul, je sors presque de mon œuvre ». Non, Dieu est toujours en train de maintenir la création dans son existence. Pourquoi ? Parce que Dieu est éternel. L'une des limites de l'intelligence humaine, c'est qu'elle est toujours prise dans l'espace et dans le temps. Quoi que je le pense dans un espace et avec une temporalité qui est faite de succession. Le récit de la Genèse ainsi nous parle à nous, hein, premier, deuxième, troisième jour, hein, mais pour Dieu, il n'y a pas de succession dans le temps. Il est éternel. C'est pour nous qu'il y a toujours un avant et un après. Dès que nous entendons le premier parole de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que nous pouvons imaginer ? Ben, un moment où avant et après. Or, Dieu est éternellement présent et il n'a ni commencement ni fin. Pour nous, il est le commencement et la fin, comme cela est vrai pour toute la création. Donc, il ne se repose pas au sens où il aurait terminé son œuvre. De fait, il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Pour l'homme et la femme, il a créé rien de moins que l'univers. Et ce septième jour nous dit déjà que nous sommes appelés à un autre jour. Abraham dira mystérieusement dans sa science prophétique, « J'ai vu son jour se lever ». C'est déjà ce jour de la rencontre avec Dieu. Donc Dieu ne se repose pas, il maintient la création dans l'être, mais voilà que sa création est achevé. Maintenant, ne reste plus à l'homme et à la femme, et à travers eux, à l'ensemble du genre humain, que de vivre en compagnie de Dieu qui a tout donné pour faire de nous des fils. Voilà un peu cette dimension du septième jour. Nous avons vu à l'école de saint Thomas d'Aquin que lorsque nous considérons Adam, que c'est l'ensemble du genre humain qui est présent en puissance en Adam. Et nous avions vu à l'école de saint Thomas que saint Thomas y voit également déjà l'image du Christ. Alors le Christ, c'est saint Jean qui nous le dit le mieux dans son prologue. Le prologue de l'évangile selon saint Jean eh bien, fait le lien entre le commencement du livre de la Genèse et le commencement qui est celui du Verbe de Dieu. Son évangile fait donc le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament et révèle que le Jésus de Nazareth, auprès de qui il a cheminé, cet homme à partir duquel il est venu en confesser la divinité qu'il était Dieu, Dieu était en lui présent dès le commencement. Le prologue de Jean s'ouvre ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Verbum en latin, je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, c'est également le mot logos en grec, puisque l'évangile est écrit en grec, c'est la parole. La parole raisonnée, ce n'est pas une parole futile, c'est une parole raisonnée. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire donc la parole créatrice. Puisque le livre de la Genèse nous dit bien « Dieu dit ». C'est bien cette parole qui met en mouvement l'ensemble de la création. Au commencement donc du monde créé était le Verbe. C'est-à-dire que lorsque nous considérons Jésus-Christ, nous devons voir en lui le Dieu créateur. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Ça ne veut pas dire que le Verbe n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il est tourné vers Dieu, sous-entendu, le Père, puisque saint Jean poursuit, le Verbe était Dieu. Donc il y a bien cette Trinité qui est à l'œuvre. Il était au commencement tourné vers Dieu, et que nous dit-il au verset 3 de ce prologue ? Tout fut par lui. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. Ce qui veut bien dire qu'il est véritablement la parole créatrice. Dans l'Évangile, nous voyons le Seigneur Jésus poser un certain nombre d'actes miraculeux. Je pense en particulier à la tempête apaisée. Souvenez-vous, les apôtres sont effrayés parce qu'ils sont sur cette mer, déchaînés, alors qu'on nous dit le Seigneur dort sur le coussin. Ils vont le réveiller. Et le Seigneur Jésus de se lever, d'ordonner au vent, d'ordonner à la mer, et aussitôt un grand calme se fit. C'est vraiment, le Seigneur Jésus a toute autorité sur la création, non pas parce qu'il a reçu cette autorité de Dieu le Père, d'abord parce qu'il est Dieu et qu'il est le Verbe de Dieu, il est la parole créatrice. D'où l'effroi encore plus grand pour les apôtres, qui encore plus, non seulement ils ont eu peur de mourir dans cette tempête, mais ils ont encore plus peur une fois que la tempête s'est calmée, en se demandant, mais d'où cela lui vient-il ? N'oublions jamais que les apôtres cheminent aux côtés d'un homme et finissent à confesser qu'il est le Fils de Dieu. Donc rien de ce qui est créé n'a été fait sans le Verbe de Dieu que nous appellerons dans son humanité Jésus le Christ. Verset 4 de ce prologue, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise, ne l'ont point arrêtée. » On se souvient dans le récit de création qu'il y a, on l'avait vu le premier jour, la séparation de la lumière et des ténèbres. Ce n'est pas encore la création des luminaires. On avait vu que pour les pères, c'est la création du monde angélique. C'est ce bien qui vient de Dieu. Et au nom de la liberté angélique, ceux qui deviennent démons décident de s'en affranchir. La lumière, malgré tout, elle brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cela veut dire aussi, derrière cela, que le bien, de toutes les façons, est supérieur au mal. On verra cela en son temps, mais le mal, dans sa définition, c'est une privation de bien. Et j'ai peut-être eu l'occasion de vous dire que quoi que nous fassions, quoi que nous cherchions toujours un bien, qui n'est peut-être pas le bien, mais si nous prenons l'exemple du voleur, le voleur, il veut voler le bien d'autrui pour se l'approprier. Le violeur, il cherche son propre bien. De même, le meurtrier, que cherche-t-il ? La vengeance. Donc du coup, on cherche, on est toujours tourné et motivé par le bien, faut-il encore que ce soit ensuite le véritable bien. Donc là, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière, cette lumière qui éclaire les hommes. Alors ensuite, puisque là on entre dans l'évangile selon saint Jean, saint Jean qui est symbolisé par cet aigle à la vue haute, eh bien lui là, il va commencer maintenant à perdre un peu d'altitude, et de ce Dieu créateur par qui tout a été fait, voilà qu'il nous dit « Un homme fut envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vient en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. » Et oui, il faut bien commencer l'évangile sur les bords du Jourdain avec le baptême du Seigneur, commencement de sa vie publique. Mais la question qui habitait les contemporains du Seigneur, c'était est-ce que Jean-Baptiste est le Christ tant attendu ? Eh bien là, voilà que saint Jean répond dès le commencement. Il n'était pas la lumière, le Baptiste, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et nous reprenons de l'altitude, comme toujours en l'Évangile selon saint Jean, le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Là, c'est déjà l'image, il va préparer l'incarnation du Seigneur. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Vous voyez à quel point saint Jean insiste pour bien manifester que le Verbe de Dieu est créateur et que c'est lui-même qui, en devenant homme, Jésus de Nazareth, demeure Dieu agissant et sanctifiant le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et voilà déjà tout le drame de la passion et de l'incarnation du Seigneur. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu Chez les siens, dans son propre bien, nous dit ici la traduction plus littérale. Il est venu dans son propre bien, mais il est chez lui puisqu'il est le Dieu créateur. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais, et voilà le monde de la grâce qui s'ouvre, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous disais, il y a un seul et unique dessein de Dieu, c'est celui de faire de nous des fils, devenir enfants de Dieu, écrit Saint Jean l'apôtre. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comment il définit cela ? Ceux-là ne sont pas nés du sang. Ce n'est pas en étant les frères de sang du Seigneur que nous sommes enfants de Dieu. Ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme. Ben, le vouloir de chair, on comprend, on a vu l'homme et la femme sont créés eh bien, pour procréer, mais pas seulement pour procréer, comme les animaux qui feraient ça à une certaine saison et se désintéresseraient de leur progéniture, mais la grande dignité de l'homme, c'est également d'éduquer les enfants, et même encore plus chrétiennement parlant, de les élever. Saint Paul nous dit toujours qu'il faut vivre en pensant aux réalités d'en haut. Donc du coup, voilà, on est fait enfant de Dieu, ça ne vient pas du sang. Sous-entendu, puisque c'est la bonne nouvelle qui s'annonce, il ne va pas falloir être juif de par sa mère pour pouvoir prétendre à cette adoption divine. Ça ne vient pas donc de la chair, ça ne vient même pas d'une volonté de d'homme. Cela vient directement de Dieu. Quand Dieu crée, je vous l'ai dit, il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer. Cette conjugaison qui est la bonté de Dieu fait que nous venons de cette bonté de Dieu. Mais quel est le projet de Dieu pour nous ? Eh bien, c'est qu'il veut nous faire partager sa vie, ce qu'on appelle la gloire. Et voilà où Saint Jean veut en venir. Et le Verbe s'est fait chair. Alors, ces quelques petits mots, si vous voulez, sont prodigieux. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que lorsque Dieu crée le monde matériel, qu'il n'y a pas quelque chose de plus éloigné de ce qu'il est que la matière. Parce que la matière, elle est là, et elle est toute là, et elle est comme immobile et prisonnier de sa matière. L'esprit, lui, n'a pas de frontières. Ce qui fait que nous sommes ici, assis dans cette salle au presbytère, c'est bien notre corps. Et si on s'ennuie, on peut être, comme on dit, sur la Lune, sans avoir d'appareils spatiaux particuliers. Ça montre bien qu'il y a une limite de la matière qui est là, alors que l'esprit, lui, peut être bien ailleurs. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. L'Épître aux Hébreux nous dira « Dieu l'a abaissé même en dessous des anges ». C'est dire déjà cet abaissement du Fils de Dieu. Pourquoi le Verbe se fait chair ? Eh bien parce qu'il vient pour nous sauver. C'est les deux. Ce que nous avons vu, il y a l'homme tel qu'il est créé et voulu par le bon Dieu. Il y a le péché originel qui est l'exercice de la liberté, on y reviendra. Puis il y a l'état après la chute. Et puis il y a l'état que notre Seigneur Jésus le Christ vient restaurer en nous. Il vient nous sauver et il vient restaurer en nous un genre humain blessé. Donc le Verbe s'est fait chair, et Saint Jean de préciser, et il a habité parmi nous. Et nous, sous-entendu apôtres, mais également générations qui ont eu la grâce immense de pouvoir cheminer et d'entendre le Verbe de Dieu, nous avons vu sa gloire. Cette gloire, d'où vient-elle ? Cette gloire que le Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient du Père. Voyez la hauteur de l'évangéliste Saint Jean. Et nous redescendons en altitude et nous retrouvons Jean le Baptiste. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé. » Et Jean ne s'y trompe pas, Jean-Baptiste, parce que avant moi, il était. Si nous ouvrons l'évangile selon Saint Luc, c'est Saint Luc qui nous rapporte avec le plus de précision les évangiles de l'enfance, ben, Saint Luc nous dit bien que Jean-Baptiste est bien avant la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ, puisqu'au moment de l'Annonciation, on nous précise qu'Élisabeth, la parente de la Vierge Marie, est déjà enceinte depuis 3 mois. Et pourtant, voilà qu'ici, sous un autre aspect, Jean-Baptiste nous dit « Avant moi, il était ». De telle sorte que le Seigneur Jésus pourra dire à un moment donné, avant Abraham, moi j'étais. Alors là, on a la réaction directe de la foule rapportée par les évangiles, mais cet homme n'a pas 40 ans. Et il voudrait nous dire qu'il est avant Abraham. Mais il faut comprendre que l'incarnation, hein, c'est Dieu qui devient homme tout en demeurant Dieu. Et nous contemplons là déjà le mystère du Christ. Le mystère de ce Dieu créateur qui vient, non pas simplement au contact de sa créature, parce qu'il n'avait pas besoin de s'incarner pour venir au contact de sa créature, il vient sauver ceux qu'il aime, le genre humain, pour qui il a créé l'univers. Donc Jean-Baptiste ne s'y trompe pas. Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. Et Saint Jean, l'évangéliste, de reprendre sa plume, de sa plénitude en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Je vous ai dit, à partir du péché originel, ce que nous perdons, c'est la grâce, cette faveur de Dieu, cette amitié d'avec Dieu. Et Saint Jean, de nous dire ici, au commencement de son évangile, que nous, ben, qui sommes disciples du Seigneur Jésus, nous qui ne sommes pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais nous qui venons de Dieu, parce que par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu, et bien voilà que nous recevons de lui grâce après grâce. Et dans la finale de son évangile, j'y pense à l'instant, à la première conclusion de l'évangile selon Saint Jean, eh bien il nous dira que tout ce que le Christ a accompli, eh bien tous les livres du monde ne suffiraient pas à écrire tout ce qu'il a accompli, en disant voilà, j'ai écrit l'évangile, j'ai apporté les traits principaux, mais tout ce que le Christ a accompli, et accompli encore aujourd'hui par sa grâce, eh bien tous les livres du monde ne pourraient pas le contenir. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Enfin, le prologue s'achève sur deux petits versets, très importants. Si la loi fut donnée par Moïse, enfin sous-entendu, c'est Dieu qui communique à Moïse la loi, voilà que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il vient véritablement pour restaurer cette humanité qui, en raison du péché, est défigurée, qui ne ressemble plus autant à cette image et à cette ressemblance d'avec laquelle elle avait été créée. Leur image et ressemblance d'avec Dieu, bien sûr. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Enfin, voilà le dernier verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Souvenez-vous, les apôtres vont demander au Seigneur Jésus, parce qu'ils entendent souvent le Seigneur Jésus parler du Père, « Oh, mais Seigneur, montrez-nous le Père, cela nous suffit. » Le Seigneur de répondre, « Mais qui m'a vu ?» a vu le Père. Donc c'est vraiment Dieu qui vient à notre rencontre. Donc là, nous contemplons vraiment le Christ, créateur, et qui vient par son incarnation nous sauver, se révélant ainsi être notre rédempteur. Ça nous permet, si vous voulez, de bien comprendre que cette théologie de la création que nous venons de méditer, eh bien, elle n'est pas obsolète avec la venue du Seigneur Jésus, non. C'est le Dieu créateur qui vient comme nous recréer, serait exagéré, restaurer notre nature en vue de cette nouvelle création dont nous parle Saint Paul, que sera la vie éternelle en paradis. Donc là, nous avons, si vous voulez, le lien entre le Dieu créateur et l'incarnation du Seigneur Jésus. Et je voudrais aussi que nous regardions une parabole que le Seigneur donne, une parabole qui nous est rapportée dans les trois évangiles qu'on appelle. Alors, il y a trois évangiles, je vais expliquer ça à un moment donné. Il y a, sur les quatre évangiles, il y a trois évangiles que l'on dit synoptiques, c'est-à-dire qu'ils suivent, grosso modo, la même trame. Il y a des passages de la vie du Seigneur qui seront rapportés dans les trois, voire même dans les quatre évangiles. Par exemple, le baptême du Seigneur Jésus est rapporté chez les quatre évangélistes. Si l'évangile selon saint Matthieu va commencer par la généalogie du Seigneur Jésus et par s'attacher à la personne de saint Joseph, ben voilà que lui, l'évangile selon saint Luc, lui, va davantage développer les récits de l'enfance du Seigneur Jésus, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, bien sûr, en passant également par la Nativité de Jean-Baptiste et par tout son ministère. Le seul évangile qui se distingue d'une forme de chronologie, c'est l'évangile selon saint Jean. Alors il y a un livre, il faudra que je vous l'amène un jour, hein, où les évangiles synoptiques sont mis en colonne pour voir un petit peu les éléments du tronc commun. La parabole que nous allons lire et méditer quelque peu maintenant, c'est la parabole qu'on peut appeler des vignerons homicides. On la trouve en l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 46. Nous la trouvons dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 20, versets 9 à 19. Et puis là, j'ai pris celle de Marc, dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 12, versets 1 à 12. J'ai choisi cette parabole parce que je vous disais la fois précédente que entre l'état de la nature déchue, c'est-à-dire l'homme et la femme après le péché, jusqu'au moment où cette nature va être restaurée par notre Seigneur Jésus le Christ, il y a toute une pédagogie divine qui est mise en place. Saint Jean, dans le prologue, nous dit, attention, la loi nous a été donnée par Jésus-Christ, hein, la grâce et la... La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu, dans sa pédagogie, il va, ensuite du péché, eh bien, progressivement se révéler en choisissant un peuple. Alors je lis cette parabole et ensuite nous allons voir en quoi elle nous permet d'être un trait d'union entre l'état de la nature déchue et l'état de la nature humaine restaurée par le Christ. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a creusé une cuve et a bâti une tour. Nous sommes ici pas loin de la vigne, c'est le monde viticole. Et c'est une référence au prophète Esdras qui compare l'élection d'Israël, justement, à une vigne. C'est la vigne choisie. Dans les Saintes Écritures, quand on nous parle ainsi de la vigne choisie, c'est la faveur d'Israël, un peuple qui est choisi parmi tous, pour être porteur de l'Alliance et ayant reçu la mission de transmettre la révélation divine aux autres nations. Donc, là, le Seigneur Jésus place, si vous voulez, le contexte de sa parabole derrière lequel se tient Israël. Un homme a planté une vigne, donc là, l'homme en question, c'est Dieu, hein, a planté une vigne entourée d'une clôture, l'a protégée, a creusé une cuve et bâti une tour. Puis, il l'a donnée en fermage à des vignerons, et il est parti. Le moment venu, il a envoyé un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, roué de coups, renvoyé les mains vides. Il leur a envoyé encore un autre serviteur. Celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. Il en a envoyé un autre. Celui-là, ils l'ont tué, puis beaucoup d'autres. Ils ont roué de coups les uns et tué les autres. Il ne lui restait que son fils bien-aimé. Il a envoyé en dernier vers eux en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se sont dit entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage ». Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux ! Et conclusion de la parabole, ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole, et le laissant, ils s'en allèrent. Les autorités pharisiennes des grands prêtres. Alors pourquoi cette parabole ? Le Seigneur retrace ici ce qu'on pourrait appeler l'histoire sainte. Hein, cette vigne choisie, le peuple à qui, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple qu'il guide, hein, eh bien, va être guidé tout d'abord par les patriarches. Par les patriarches, nous avons bien sûr Abraham, le père des croyants, nous avons Moïse, bien sûr, Moïse, celui qui aura la vision dans le buisson ardent, qui recevra la révélation du nom de Dieu. Moïse, dont le nom signifie « sauvé des eaux », non seulement parce qu'en Égypte, il fut sauvé des eaux, hein, lui qui voguait sur un panier, sur le Nil, mais aussi parce que sa mission va être de faire traverser la mer Rouge à pied sec, et en cela, de faire passer ce peuple d'Israël, qui symbolise l'ensemble du genre humain, hein, de le faire passer de l'esclavage en Égypte jusqu'à la liberté des enfants de Dieu. C'est également à Moïse, sur le mont Sinaï, que Dieu va communiquer la loi. C'est également à travers le ministère de Moïse, aidé d'Aaron, eh bien que l'on va avancer et qu'on va enfin percevoir en haut du mont Nebo la terre sainte avec sa frontière naturelle, le Jourdain. Et voilà qu'ensuite Moïse mourra, et du coup c'est Josué qui va faire entrer le peuple dans cette terre promise par Dieu, avec la prise de Jéricho, avec ses trompettes puissantes, avec l'arche d'alliance qui entre dans le Jourdain, qui laisse passer le peuple. Tout cela fait partie de l'histoire sainte. Et avec Moïse, il y a eu l'instauration de la Pâque. Dieu qui a déjà manifesté qu'il était sauveur, mais voyez-vous, ce sont des signes et des images pour nous faire comprendre que nous attendons le Messie, celui qui devait venir, Dieu lui-même. Donc là, on nous dit, Dieu a envoyé les patriarches, et puis voilà qu'ils sont morts, on les a battus, on les a roués de coups, il en a envoyé d'autres, mais qui furent-ils ? Les prophètes, qui étaient là pour rappeler l'alliance avec Dieu, et rappeler l'alliance et également manifester aux hommes que Dieu s'était révélé comme l'Éternel, que Dieu s'est révélé comme étant unique. Pour nous, cela va de soi, mais il ne faut pas oublier que lorsque Dieu se révèle comme le Dieu unique et éternel, non seulement l'idée d'éternité, mais même l'idée de l'unicité de Dieu n'appartient à aucun peuple autour d'Israël. Au contraire, ils sont perçus comme vraiment un petit peuple de rien du tout, sous-entendu, et en plus, ils n'ont qu'un Dieu. Lorsque les cultures se rencontraient, eh bien, on ajoutait au panthéon des dieux le catalogue des autres. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Ce petit peuple qui n'a qu'un Dieu, alors qu'on ne comprenait même pas que la revendication, ce n'était pas le fait d'avoir qu'un seul Dieu, c'était le fait que c'était le Dieu véritable, que nous disait Saint Jean. La loi est venue par Moïse, la grâce bien sûr, et la vérité est venue par Jésus-Christ. Voilà, petit à petit le peuple chemine. Les prophètes, pourquoi on nous parle ainsi de être roué de coups et être tué ? Tous les prophètes, mis à part Élie, qui est monté à la gloire du ciel dans son char de feu, sur les bords justement du Jourdain, eh bien, ont tous été mis à mort. Et ensuite, Saint Marc et Saint Luc nous rapportent la même expression quand on nous dit au verset 6 de cette parabole, « Il ne lui restait plus que son fils », Matthieu reste là, son fils, et Marc et Luc précisent « fils bien-aimé ». Lorsqu'au moment du baptême, tout comme plus tard à la transfiguration, la voix de Dieu se fait entendre, elle désigne toujours le Verbe de Dieu comme le Fils bien-aimé. Fils bien-aimé, bien-aimé est très important. Pourquoi ? Il faut revenir un peu au mystère de la Sainte Trinité. Hein, il y a le Père, hein, qui aime le Fils qui aime le Père. C'est une communion d'amour, la Sainte Trinité. Et justement, cet amour qui unit et le Père et le Fils est une personne, Dieu le Saint-Esprit. Chaque fois qu'on dit « bien-aimé », eh bien, on entre dans cet amour trinitaire dont l'Esprit-Saint, eh bien, nous unit. Vous savez que je commence toujours mes homélies, frères et sœurs, bien-aimés. C'est donc déjà à la fois une invocation du Saint-Esprit, mais bien de manifester que l'amour qui est celui du pasteur vis-à-vis de ses fidèles vis-à-vis de son pasteur, cet amour de l'Église, c'est déjà cet amour de Dieu qui chacun nous a saisi. Donc quand Saint Marc ici nous dit « il a envoyé son fils bien-aimé », l'appellation n'est pas anodine, c'est bien pour nous dire « eh bien voilà, qu'après les patriarches, après les prophètes, l'heure est venue, pour reprendre un terme de l'Évangile selon Saint Jean, où il va falloir envoyer son propre fils, en disant « ils respecteront mon fils ». Mais voilà, ces vignerons se sont dit entre eux, c'est l'héritier. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ça saint Thomas d'Aquin nous dit, le péché le plus grave est celui des grands prêtres, des scribes. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les Écritures et qu'ils ont entendu et ils ont même suivi Jésus. Ils ont vu les signes, les miracles qu'il accomplissait. Il y avait comme un cahier des charges de ce que le Messie allait devoir accomplir pour se faire reconnaître, rendre la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés, libérer les prisonniers, rendre la mobilité aux paralysés, nourrir son peuple. Et nous voyons le Seigneur Jésus dans l'Évangile reprendre un à un chacune de ces catégories. Malgré cela, eh bien voilà qu'on ne veut pas croire en lui. Et pourtant, comme le laisse entendre saint Marc, c'est l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons l'héritage. De quel héritage s'agit-il ? La vie éternelle. Alors bien sûr, la vie éternelle ne peut pas s'acquérir à la seule force de nos bras. Hein ? C'est vraiment une grâce qui nous est donnée. Ça ne peut pas. Même en vivant le mieux possible ici-bas, on ne peut pas prétendre à la vie éternelle. La vie éternelle est d'une grâce qui nous est faite par Dieu en raison de son amour. Donc vous voyez que dans cette parabole, le Seigneur Jésus, hein, de façon voilée, eh bien, retrace toute l'histoire sainte qui, depuis l'état de la nature déchue, nous conduit aux portes de l'incarnation du Seigneur Jésus où il vient restaurer cette nature. Et le Seigneur Jésus arrête sa parabole en citant directement les Écritures. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle. Eh bien oui, voilà, on veut rejeter le bâtisseur, le Créateur, celui qui se révèle être comme le Dieu rédempteur. Eh bien ça, on préfère la rejeter. Et pourtant, on nous dit, c'est la pierre d'angle, celle qui fait que tout l'édifice tient. C'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Oui, mais pour pouvoir contempler cette merveille du Dieu créateur, du Dieu rédempteur, il faut cette vertu d'humilité. Hein, l'orgueil, eh bien, nous empêche véritablement de contempler à quel point le Seigneur est la pierre d'angle. C'est la merveille de nos yeux, eh bien, c'est ce que dit également le Seigneur quand le Seigneur Jésus rend grâce à son Père. Je vous rends grâce, Père, parce que ce que vous avez caché aux sages et aux savants, vous l'avez révélé aux tout petits. Hein, les mystères que le Seigneur nous donne à travers sa révélation, eh bien, nous les recevons avec l'humilité de la foi. Et ensuite, le dernier verset hein, nous prépare au drame de la passion. Il cherchait à l'arrêter pour bien sûr le condamner à mort. Ils avaient bien compris que c'était pour eux que le Seigneur Jésus avait dit cette parabole et le laissant, ils s'en allèrent. Mais il ne faut pas croire que le Seigneur Jésus n'a à affronter que la passion. Saint Thomas d'Aquin a un tout petit mot qui en dit très long. Le Seigneur a souffert notamment la passion. Plusieurs fois dans l'Évangile, hein, vous y ferez attention, mais pour cela, peut-être plus que la lecture liturgique du dimanche, il ne faut pas avoir peur de lire un évangile du début à la fin pour avoir justement un mouvement, un élan, celui de l'évangéliste, et on voit à quel point le Seigneur Jésus, on veut le pousser dans le ravin, à quel point on veut le tuer, à quel point on veut en faire un roi, il réussit à s'échapper. Il y a bien sûr la passion, mais le saint Thomas d'Aquin précise, hein, il a souffert notamment la passion, alors bien sûr, la passion. Mais à plusieurs reprises, hein, on voit le Seigneur Jésus en colère, le Seigneur Jésus déçu à cause de l'incrédulité de leur cœur. Donc voyez, cette parabole que le Seigneur donne eh bien, nous permet de comprendre qu'entre le moment où Adam et Ève hein, ont péché et le moment où le Christ vient, il y a cette pédagogie divine. Dieu va choisir un peuple. Dieu va faire alliance avec ce peuple, mais ce n'est pas ce peuple contre les autres, c'est ce peuple pour avoir la mission de eh bien, transmettre cela. Et dans la parabole, je me rends compte qu'ici, voyons, ouais, peut-être j'ai choisi Marc un peu à la va-vite, j'aurais peut-être dû regarder les autres, je vais le prendre d'ailleurs, parce que, voyons, je suis chez Marc, on va regarder celle de saint Matthieu, parce que dans cette parabole, Jésus fait aussi la transition avec les apôtres. Alors, les métayers révoltés, oui, chacun a son titre. Donc, je reprends juste à la finale de l'évangile selon saint Matthieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos cieux. Aussi, je vous le déclare, poursuit Jésus en saint Matthieu, à vous, chef des prêtres, pharisiens, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Vous voyez, chaque évangile apporte quelque chose. Là, on dit bien, on va le donner à un autre peuple. Mais ce n'est pas à un autre peuple. On va le donner à l'Église qui est fondée sur les 12 apôtres, comme Israël avait été fondé sur les 12 tribus. Et les apôtres, ils sont envoyés partout dans le monde pour transmettre la bonne nouvelle du salut. Donc il y a les patriarches, il y a les prophètes, puis avec la venue de notre Seigneur Jésus le Christ, son incarnation, le Verbe s'est fait chair, nous a dit saint Jean, il va y avoir également le fait que le Seigneur va appeler les 12 apôtres, et c'est à eux qu'il va confier la mission de transmettre la bonne nouvelle à toute la création. Voilà un petit peu comment, à travers cette parabole, on peut retracer toute l'histoire sainte que nous aurons l'occasion de méditer. On comprend ainsi dans l'Évangile comment le Seigneur Jésus parle de Moïse et en disant « Mais attendez, vous avez ici bien plus que Moïse. » Donc le Seigneur Jésus a une haute idée de qui il est, ce n'est vraiment pas par orgueil. Au contraire, son humanité cache la puissance de sa divinité. Puissance qui est à l'œuvre en chacun de ses miracles, puisqu'il est le Dieu créateur. Contrairement à quelque autre prophète, on voit par exemple le prophète Élie, qui est un grand prophète. Élie doit prier, doit intercéder pour accomplir un miracle. Le Seigneur Jésus ne prie pas. Le Seigneur Jésus, il agit parce qu'il est cette autorité divine, autorité créatrice. Donc vous voyez déjà, à travers ce catéchisme où on cherche à avoir une vision d'ensemble, comment on vient de Dieu, comment on retourne à Dieu, et maintenant on comprend une chose essentielle, c'est que pour on vient de Dieu, et pour retourner à Dieu, il faut passer par le Christ. Il nous le dit en termes assez simples, dans une de ses déclarations, en disant « Je suis la porte ».